Bonjour chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral, chers lycéens et lycéennes confinés, je vais vous parler aujourd'hui du Brésil. Le Brésil, ce grand pays d'Amérique latine, cette puissance d'Amérique latine qui rayonne ou rayonnait, puisque on va voir un peu les limites de cette puissance aujourd'hui. On va d'abord voir ensemble ce qui en fait une puissance économique émergente. On va ensuite regarder ce qui en fait une puissance régionale. Puis nous allons voir aussi ce qui limiterait aujourd'hui sa dimension internationale ou mondiale dans cette quête du Brésil de devenir une puissance incontournable. La mondialisation. Donc le Brésil est une puissance émergente. La sortie du Brésil du sous-développement date des années 80-90, à l'époque où le Brésil est sorti en fait de la dictature à partir de 1985. Donc cette croissance est due aussi à une croissance de la demande agricole mondiale. En effet, l'un des piliers de l'économie brésilienne, c'est bien sûr son agriculture. Alors ce n'est plus l'agriculture du cacao ou du café tel qu'il était à l'époque coloniale, c'est plus l'élevage que l'on retrouve notamment dans les régions du centre-ouest, l'élevage donc bovin ou ovin, c'est l'élevage aussi des poulets, notamment dans l'état du sud, du côté de Porto Alegre, et puis le développement par conséquent aussi d'une industrie agroalimentaire liée à cet élevage et à certaines productions dont le Brésil est devenu le champion, comme par exemple le soja ou la canne à sucre, dont le Brésil tire pour lui et pour son exportation l'essence, c'est-à-dire l'éthanol. L'industrie donc est donc l'industrie, c'est-à-dire la transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis, est donc très présente au Brésil, notamment dans les régions du sud-est, du côté de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba ou Porto Alegre ou Grande Vitória, donc sur les côtes atlantiques. Cette industrie a été développée notamment à partir des années 60 par l'importation ou la localisation, dirons-nous, de l'industrie automobile nord-américaine comme Ford ou européenne comme Renault, Volkswagen, Peugeot, Toyota, Hyundai pour les Coréens du Sud. Donc ce qui fait du Brésil le septième producteur automobile mondial. Par rapport à ça, on a aussi le développement au Brésil d'une industrie aéronautique puissante, puisque Embraer donc est le quatrième avionneur mondial derrière Boeing, Airbus et Bombardier. Donc la recherche est développée aussi au Brésil, ce qui en fait un pays tout à fait attractif pour un certain nombre d'étudiants sud-américains, avec 200 universités et des écoles d'ingénieurs réputées. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, l'un des grands producteurs de films latino-américains, et notamment les telenovelas qui se vendent un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays du Maghreb ou les pays arabes, ou que ce soit même en Russie ou en Roumanie. Voilà, c'est ce qui fait le bonheur des gens devant leur téléviseur jusqu'à Moscou. Donc, nous avons ici donc une géographie qui est divisée en fait en quelques régions majeures, notamment les régions majeures, ce sont le sud et le sud-est, donc les régions de Porto Alegre, de São Paulo, de Rio de Janeiro et de Belo Horizonte. On a ensuite une région centre-ouest plutôt axée vers les grandes fermes ou ranchs en fait de production bovine ou ovine, plus le nord-est qui est plutôt axé sur les anciennes cultures coloniales, et enfin le nord, c'est-à-dire la région amazonienne qui serait un front pionnier dont je parlerai tout à l'heure. N'oublions pas quand même le fait que on est dans un pays qui se métropolise de plus en plus, notamment autour d'un triangle que l'on nomme le triangle en fait central de l'économie brésilienne, qui tourne autour de Sao Paulo, donc la capitale économique brésilienne, hein, le cœur économique du Brésil, avec sa bourse de Sao Paulo. On a aussi Belo Horizonte, qui est plutôt au nord de ce triangle, qui est lui plutôt axé sur la sidérurgie, la métallurgie, la pétrochimie, l'agroalimentaire aussi. Et puis enfin, nous avons Rio de Janeiro, que tout le monde connaît puisque c'est là que se déroule le carnaval, mais c'est aussi l'un des pôles principaux du tourisme au Brésil, et c'est aussi le centre de la banque et de l'audiovisuel et du cinéma brésilien. Bref, nous avons ici un Brésil qui est organisé, même si les structures de transformation et de transport ne sont pas encore optimales comme ça pouvait être le cas par exemple aux États-Unis. Il n'empêche que le Brésil est la première économie d'Amérique latine et que son secteur des services représente déjà plus de 60% de sa richesse produite. Le Brésil est en plus indépendant d'un point de vue énergétique, puisque c'est l'un des grands producteurs d'hydroélectricité en Amérique latine. Il est d'ailleurs exportateur d'hydroélectricité. C'est aussi désormais, et depuis la découverte de nappes de pétrole au large des côtes, l'un des grands producteurs de pétrole et de gaz de la région. Nous avons ici donc les caractéristiques d'une puissance émergente, par le fait que, à côté d'un secteur primaire, que ce soit au niveau du pétrole ou que ce soit au niveau de l'agriculture, eh bien, s'est développé au Brésil un secteur industriel et surtout un secteur de services présent dans les villes et surtout dans les grandes métropoles brésiliennes. Je vais donc maintenant aborder ce qui fait du Brésil une puissance régionale incontournable pour l'Amérique latine. Donc, depuis 1991 et la création du Mercosur, ou du Mercosul, comme on dit en portugais ou brésilien, eh bien, j'ai donc la constitution d'une organisation économique latino-américaine, une forme de CE, entre notamment le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, plus les États qui y sont associés, comme le Chili, la Colombie et le Venezuela. Il a été associé jusqu'à son éviction il y a 3 ans. De cela par le Mercosur pour des raisons politiques. Le but de ce Mercosur était bien sûr de faire un contrepoids à la puissance américaine. Soyons unis, l'union fait la force, disent les Belges dans leur devise. Eh bien, c'est le cas aussi des Latino-Américains. Il fallait être le plus unis possible. Le Brésil est devenu, par son conséquent, l'un des grands pays du fait de son poids démographique et économique, l'un des grands pays de ce Mercosur. Et sous la présidence de Lula et de Dilma Rousseff, donc du Parti des Travailleurs, le Brésil et donc le Mercosur sont devenus les champions d'un développement économique et social plutôt à gauche et de plus en plus indépendant de Washington, en ayant même des tractations économiques avec l'Union européenne, en ayant des tractations diplomatiques avec des pays comme l'Angola ou le Mozambique. 20% de la richesse du Brésil, puisqu'à l'époque le Brésil faisait des excédents, 20% de cette richesse était tournée vers l'aide à des pays tiers, comme les pays d'Amérique latine ou les pays africains. Et parmi ces pays africains, 80% de cette aide du Brésil vis-à-vis de l'Afrique était tournée vers les pays africains lusophones, c'est-à-dire les anciennes colonies portugaises d'Afrique, que sont le Mozambique, l'Angola et le Cap-Vert. Donc, ce qui fait que, eh bien, le Brésil a développé ce que l'on appelle communément un soft power, c'est-à-dire une politique internationale qui tente à ce qu'on apprécie ce pays, à ce qu'on aime ce pays par des formes multiples et variées. Alors, bien sûr, le pinacle, ça a été l'organisation des JO de Rio de Janeiro en 2016 et de la Coupe du monde en 2014, qui étaient donc les symboles du retour de cette puissance et de l'accession de cette puissance, de cette nouvelle puissance à l'échelle internationale. Le Brésil, ce n'était donc plus seulement à ce moment-là le carnaval, la bossa nova, les footballeurs comme Pelé ou Ronaldinho, c'était un miracle brésilien. Un miracle brésilien d'un pays sortant du sous-développement qui était tangible et visible socialement, puisque je donnerai quelques chiffres, hein, mais 8,3% de la population était encore analphabète en 2015. Ils étaient quand même 25% en 1989 au sortir de la dictature militaire. 97% des enfants aujourd'hui, des adolescents, sont scolarisés entre l'âge de 7 et 16 ans. Le miracle était aussi dû à la démocratisation. C'était un pays démocratique. Ça l'est toujours un peu, mais enfin, on verra un peu comment ça peut s'évoluer. Donc c'était un pays démocratique, un pays qui avait vécu des alternances politiques dans un système fédéral où Brasilia, la capitale, n'a pas tous les pouvoirs. Je rappelle que Brasilia doit composer avec les États fédérés, les municipalités qui font leurs propres lois au Brésil. Je peux donc avoir un gouvernement à Brasilia de gauche et puis des gouvernements dans les États qui ne sont pas de gauche ou qui ne font pas une politique de gauche. Le système politique est alimenté d'autant plus par 15 partis politiques, les partis politiques comme le Parti des Travailleurs, le Parti démocrate, le Parti démocrate chrétien, le Parti social libéral, et on peut avoir des gouvernants qui changent de parti, comme c'est par exemple le cas de Jair Bolsonaro, qui est parti du Parti social, du Parti démocrate chrétien au Parti social libéral. Le gouvernement, qu'il soit brésilien ou que ce soit celui du sud ou du sud-est ou du nord-est, eh bien, ces gouvernements sont souvent en fait des coalitions qui ne peuvent pas véritablement affronter les crises. Alors parlons un peu de la crise brésilienne. Alors elle est effective, cette crise brésilienne, depuis 2015, c'est-à-dire depuis 5 ans. Les symptômes sont une récession économique avec des taux de chômage qui sont passés à l'époque de Lula de 5 à 6% de chômage à 12% aujourd'hui, soit un peu plus de 12 millions de Brésiliens. Et cette récession a frappé le Brésil en plein Jeux Olympiques, juste un an après que l'équipe de la Seleção se soit fait battre à plate couture par la Mannschaft allemande à la Coupe du Monde de football. Donc les Brésiliens se sont retrouvés avec des stades flambants en neuf, qui datait de la Coupe du Monde, un stade de JO avec un village olympique flambant neuf, mais à côté de ça, pas de dispensaire, pas de médicaments, ni d'école publique en nombre suffisant pour accueillir tous ces enfants qui avaient été mis dans les écoles privées, jugés apparemment par leurs parents mieux lotis que les écoles publiques. Et comme la crise s'était abattue sur ces familles qui étaient sorties de la pauvreté, eh bien, elles ont vite remis leurs enfants dans le service public. Seulement, le service public a été à ce moment-là incapable d'absorber autant d'enfants. À ceci, il faut ajouter une corruption politique due notamment à ce que certains appellent le mal du pétrole ou le mal noir, qui est en fait le fait qu'à partir du moment où on a une compagnie pétrolière, cette compagnie pétrolière subventionne ou en tout cas corrompt une partie du personnel politique. Et là, nous avons une succession de condamnations plus ou moins vraies, puisqu'on a aussi un jeu politique assez malsain dans le Parlement brésilien. Alors, le côté malsain, ben, on peut le voir par exemple par la destitution en 2016 de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, cette femme de caractère, hein, qui apparemment avait caché un certain nombre de dossiers dans le dossier qui jugeait donc l'ex-président Lula comme ayant été corrompu par l'industrie Petrobras. Donc le pétrole brésilien. Donc cette destitution a eu lieu par son vice-président Michel Temer qui a dit par la suite donc le 17 septembre 2019 qui a dit que cette destitution était un putsch en s'en désolidarisant. Il ne se présentera pas celui-ci en 2018 lui-même accusé de corruption. Vous imaginez un peu l'effet explosif et la situation explosive d'un point de vue politique, économique et sociale, et c'était ce climat explosif qui explique en partie la victoire de Jair Bolsonaro en 2019. Non pas qu'il était blanc comme neige, mais parce qu'à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol dans la population brésilienne, et puis de grandes déceptions. La question est désormais de savoir si le Brésil est une puissance mondiale. Eh bien, bien sûr, le Brésil est un pays qui est membre des BRICAS, c'est-à-dire de cette alliance entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui tente à jouer son rôle, notamment lors des grandes conférences internationales, comme par exemple à l'OMC ou donc au G20. Donc le G20 auquel le Brésil participe aussi activement. Maintenant, est-ce que cette participation au G20 ou au BRICAS fait du Brésil un pays puissant? Eh bien, le Brésil ne possède pas de hard power suffisant pour imposer ses vues, soit de façon économique, soit de façon politique ou diplomatique. Ses forces armées, si elles participent à des missions des Nations Unies, ne font pas la guerre, ou si elles font la guerre, elles le font dans les favelas. Voilà à quoi sert en fait l'armée brésilienne. L'armée brésilienne, c'est surtout un moyen de contrôler ce qui se passe ou d'essayer de contrôler les gangs dans les grands bidonvilles des villes et des métropoles vénézuéliennes. Le Brésil est un membre fondateur des Nations Unies en 1945 à la conférence de San Francisco. Cependant, le Brésil n'a pas de place permanente au Conseil de sécurité. Et quand on en a fait la demande pour représenter la région d'Amérique latine, eh bien, deux pays, l'Argentine et le Mexique, se sont opposés à cette place prépondérante du Brésil au sein du Conseil de sécurité. Il faut bien voir en ce moment un renversement d'alliance entre le Brésil et les États-Unis. Pendant les présidences de Lula et de Dilma Rousseff, le Brésil s'était mis un peu dans un camp un peu très critique vis-à-vis de la politique américaine, voire même s'opposant à une tentative de grande zone de libre-échange panaméricaine allant de Ushuaia jusqu'à l'Alaska. Donc ce Brésil-là, eh bien, il a cédé la place à un Brésil très pro-américain, celui de Jair Bolsonaro. Voici l'homme qui se dit l'ami personnel de Trump, qui suit Donald Trump sur toutes ses opinions. Quand Donald Trump est climato-sceptique, eh bien Bolsonaro l'est encore plus. Quand Donald Trump s'oppose aux Indiens d'Amérique du Nord contre les exploitations de gaz de schiste ou le passage de oléoduc dans les territoires des Lakotas, eh bien Bolsonaro, lui, il met en avant le front pionnier pour aller plus loin encore dans la destruction de l'Amazonie. Et quand Trump évacue d'un geste de la main le confinement face au Covid-19, eh bien Bolsonaro, ben lui, sort carrément et va carrément embrasser les gens dans la rue en disant que ce n'est pas grave, que c'est une maladie comme comme une autre et que c'est juste une petite grippe et que Dieu sauvera le Brésil. Donc, est-ce que dans ces conditions, le Brésil peut être encore une puissance mondiale? Eh bien, on peut en douter. On peut en douter pour l'instant. Et on peut en tout cas espérer, eh bien, que le Brésil trouve un chemin autre que celui qui est engagé par Jair Bolsonaro depuis son élection présidentielle. Donc, le Brésil, est-ce que c'est une puissance régionale? Oui. Est-ce que c'est une puissance internationale? Non, pas encore. Mais disons que nous ne sommes pas devins, nous sommes géographes et historiens, et nous regardons ce qui se passe, et pour le reste, eh bien, l'avenir nous dira si le Brésil a sa place comme grande puissance mondiale dans le XXIe siècle. Voilà, chers auditeurs, auditrices, chers lycéens, ce qu'il y avait à retenir sur le Brésil. Je vous invite, bien sûr, à continuer à lire vos livres et à nous retrouver jeudi pour une synthèse d'un cours sur les différences économiques sur le continent africain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon confinement, malgré tout. Nous nous quittons sur une petite musique brésilienne. Au revoir.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. Eu quero este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no fim.